service d'assistance annuaire.
La première émission du matin qui vous laisse le micro en tout temps.
Quel est le nom de la personne?
Louis Lemieux. 514-790-0919. Radio 9, 91.9. L'opinion du jour, parce que ça fait la différence.
Et aujourd'hui, c'est l'opinion de Nadia Zouaoui. Elle est journaliste et réalisatrice d'origine algérienne. Elle est de chez nous. Elle arrive d'un voyage au Qatar où son film documentaire Peur, colère et politique a été finaliste dans la catégorie meilleur long métrage. Et si vous savez, et je vais vous le dire maintenant, que Peur, colère et politique, c'est le sujet de la montée de l'islamophobie aux États-Unis après le 11 septembre 2001, vous comprenez pourquoi on voulait lui parler ce matin avec ce nouveau film qu'elle a été présentée au Qatar. Et vous pouvez lui parler vous aussi ou nous dire ce que vous en pensez le moment venu en composant tout de suite le 7900919. Bonjour Nadia Zouaoui.
Oui, bonjour Louis.
On voulait vous parler pour bien comprendre comment le 11 septembre 2001 a tout changé aux États-Unis par rapport à tout ce qui est islamique, musulman et qu'on pourra appeler, et vous en avez fait un film, l'islamophobie. Peur, colère et politique, ça va ensemble, mais c'est la recette de la tempête parfaite.
Oui, en fait, c'est exactement ce que j'ai senti quand j'ai été... En fait, le film, je l'ai fait 10 ans après les attaques terroristes du 11 septembre. Et c'était vraiment ces 10 ans après, donc beaucoup de rapports, beaucoup d'études, beaucoup de livres sont sortis sur l'impact des lois antiterroristes sur les communautés musulmanes. Avant cela, les gens avaient très peur de parler. Et c'est grâce à des organisations des droits de la personne qui ont aidé des gens de la communauté, tout ça. Et donc, moi, j'avais commencé ma recherche à partir d'une étude qui est sortie dans le ABC News et qui disait que tout de suite après le 11 septembre, un an après, le nombre de gens, d'Américains qui trouvent que l'islam est une religion de violence, que les musulmans sont violents, c'était de 20%. Et 10 ans après, la même étude a été faite et le chiffre était monté à 49%. Donc, à partir de cette étude, j'ai été chercher pourquoi. Et c'était pour moi, une journaliste, pour ma recherche, c'était un peu du gâteau parce que tout était sorti déjà. Et donc tout de suite après le 11 septembre, surtout la police de New York, le NYPD, le FBI avaient très peur qu'il y ait une autre attaque terroriste. Et donc ils savaient pas trop comment faire cette guerre contre le terrorisme. Donc il y a eu beaucoup d'exactions, il y a eu beaucoup de lois qu'ils ont émises, puis qu'après quelques mois ils les ont retirées parce que elles allaient contre les droits de la personne. Par exemple, une loi qui est quand même restée 8 mois, où ils ont demandé à tous les gens d'origine musulmane de 25 pays d'aller se faire photographier, prendre leurs empreintes digitales et les répertorier. C'est une loi qui n'a plus existé après 8 mois, mais ça a fait beaucoup de tort parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déportés, il y a des gens qui ont été mis dans des prisons. Et donc je raconte un peu ces exactions.
Oui.
Et je raconte aussi comment est-ce que c'est quand même le pays des extrêmes, grâce à des organisations des droits de la personne et tout ça, il y a quand même beaucoup de gens qui ont tout fait pour changer les choses.
Mais Nadia, ça, c'était le gros bon sens, j'imagine, de penser qu'il y aurait une réaction du peuple américain au lendemain des attentats et qu'on se retrouve avec une vague islamophobe. Mais au bout du compte, là, l'islamophobie, c'est devenu pour tout le monde une référence par rapport à une réaction qu'on a considérée presque naturelle. Vous documentez comment ça s'est fait.
Ouais, mais écoutez, moi j'ai un petit problème avec ce mot islamophobie parce que malheureusement il y a aussi des gens que je trouve un peu plus islamistes. J'ai pas senti qu'en Amérique c'était un pays islamophobe. En faisant mon film, j'étais dans les régions de New York, de Washington, j'ai pas été beaucoup dans le sud, mais j'ai pas senti d'islamophobie. Il y a des politiciens, des gens du Congrès qui ont voulu utiliser cette peur pour peut-être faire des guerres ou bien... C'est beaucoup plus politique que social.
Oui, je comprends la nuance que vous faites, mais là où je voulais aller, c'est qu'il y a action-réaction. Il y a eu les attentats, il y a eu une réaction et c'est, je dis naturel, je ne dis pas que c'est normal, mais je dis que on peut s'y attendre. On a une réaction au Québec et puis au Canada à la suite des des attentats de la semaine dernière que vous avez vécu un peu à distance parce que vous étiez à l'étranger. Mais cette réaction-là, on peut aussi la considérer naturelle dans la mesure où il y a une sorte de trop-plein à un moment donné qui s'extériorise et qu'on peut considérer comme d'islamophobie. Mais vous, après tout ce que vous avez fait comme travail là-dessus, et puis étant ce que vous êtes, est-ce que vous considérez ça aussi un petit peu naturel et presque forcé, là?
Ben, c'est tout à fait naturel que les gens aient peur de, je veux dire, quand on voit les images de ISIS à la télé, quand on voit les tueries, c'est tout à fait normal que les gens ont peur. Je veux dire, moi, mes enfants sont nés au Québec et ils m'appelaient, ils ont très peur après les attaques qu'il y a eu à Ottawa. Je crois que tout le monde a peur. La communauté musulmane n'est pas une communauté homogène. Il y a des gens pratiquants et des gens pas pratiquants. Il y a des gens qui viennent de plus de 22 pays, juste pour les pays arabes par exemple. Donc c'est toujours plus difficile. Alors il y a des gens qui sont sur la défensive, qui vont dire non, c'est pas de notre faute, nous on est bien. Mais je crois qu'en tant que citoyen québécois et canadien, je veux dire, moi je me sens pas coupable par association parce que je suis née dans une religion qui maintenant est utilisée par des extrémistes ou des gens qui l'ont politisée pendant très longtemps et puis maintenant on voit ce qui arrive avec ça. Je crois qu'il faut faire attention avec ça. Et c'est un peu le danger de la victimisation de la communauté musulmane. Je crois qu'au lieu d'être dans la défensive, il faut d'abord réagir comme des citoyens canadiens. Et c'est pour ça que quand je vois, par exemple, ici au Québec, il y a un groupe qui se bat contre l'islamophobie et tout ça, j'ai beaucoup de réserves.
Oui, mais en même temps, vous comprenez que les messages que la communauté, la société québécoise reçoit sont au mieux diffus et mélangés. Comme par exemple, au lendemain des attentats, le premier ministre Couillard a fait appel à des imams pour essayer d'établir des ponts. Quand on vit ensemble et qu'on a besoin de ponts, c'est parce qu'on a un problème, là.
Ben oui, exactement. Et en fait, le gros travail à faire, c'était le travail de l'intégration. C'est le travail d'intégrer ces immigrants qui sont pour beaucoup francophones et qu'on, je veux dire, par exemple, dans les médias, ces gens-là, on les voit pas du tout. Moi, ça fait très longtemps que je suis dans les médias québécois, dans les programmes de minorités visibles et des choses comme ça. Et puis, bon, il y a des programmes, mais il n'y a pas de bonne volonté pour intégrer ces gens-là. Et je me dis, c'est là où il fallait faire un travail. Je veux dire, le chômage dans la communauté maghrébine est de 29%, alors que c'est la communauté la plus francophone et la plus diplômée. Donc il y a des vrais problèmes d'intégration au niveau des chiffres. Parce que bon, quand les immigrants arrivent, les enfants s'intègrent à l'école, les adultes s'intègrent par le travail. Mais quand les adultes sont isolés dans des quartiers ou dans des en groupe dans leur communauté, on ne favorise pas beaucoup l'intégration.
Oui, on est dans des quasi-ghettos. Mais est-ce que le problème en est pas un de représentation? Est-ce que c'est parce que la communauté, même si elle ne peut pas parler d'une voix, parce que forcément, il y a sûrement des différences dans la communauté musulmane, mais au Québec, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de représentation. Il n'y a pas personne qui parle au nom et pour la communauté.
Comme je vous disais, il n'y a pas un groupe homogène. C'est comme si on demande à des gens nés de religion chrétienne d'être homogènes et de parler. Je veux dire, c'est pas parce qu'on appartient à une religion que je veux dire, moi, un imam ne me représente pas, c'est mon député qui me représente. Je sais pas si vous comprenez, donc il y a des gens religieux, il y a des gens de différentes écoles de pensée, il y a des chiites, il y a des sunnites. Donc c'est pour ça que c'est un peu difficile de parler au nom de la communauté musulmane.
Oui, mais Nadia, quelle que soit la partie de la communauté, on est tous, j'espère, j'imagine, contre ce qui est en train d'émerger, c'est-à-dire une violence chez nous avec un volet terroriste qui est associé à un mouvement qui est radical, je veux bien, mais à la limite toujours associé à une certaine forme de dérive de religion et d'idéologie. Là.
Oui. Mais écoutez, en plus, la radicalisation, maintenant, elle se fait beaucoup sur Internet. Oui, il va falloir surveiller les mosquées parce que ben, justement, je faisais une recherche justement pour une émission sur. Il y a 6 ans, j'ai fait un reportage pour l'émission Enquête sur les enquêtes sur les mosquées à Montréal et j'ai refait un peu le même travail 7 ans après et je vous dirais que oui, il y a une forme de radicalisation, un retour vers un islam plus salafiste, plus rigoriste, de plus en plus et c'est partout dans le monde. Et je crois qu'il faut se battre contre ça, mais le faire intelligemment. Je crois que la guerre contre le terrorisme doit être faite d'une façon très intelligente. Parce que justement, pour ne pas faire ce, comme en anglais, ce backlash ou bien ce... pour qu'il y ait d'impact encore plus grave sur la communauté qui va aller radicaliser encore plus de jeunes. En fait, c'est ça le danger. Donc je crois que la guerre contre le terrorisme doit être faite par des gens qui connaissent bien ce domaine. Parce que, comme j'ai vu aux États-Unis, par exemple, le FBI qui a plus de 1500 personnes des différentes communautés qu'ils envoient, ben ça c'était sorti dans les journaux, dans les médias américains, qui sont souvent des gens qui sont recrutés dans des prisons, bien des gens qui n'ont pas leurs papiers, et du coup on leur propose de faire leurs papiers, puis donc ils n'ont pas beaucoup d'éthique, et qu'à chaque terroriste, présumé terroriste qu'ils vont trouver, ils reçoivent $100,000, et donc ces gens-là vont essayer de créer des terroristes pour faire de l'argent. Donc c'est dans cette optique que je dis que la guerre contre le terrorisme doit être faite d'une façon très intelligente, avec des gens vraiment qui connaissent le terrain.
Nadia Zouaoui, pour se comprendre, il faut se parler. Alors, j'espère vous reparler bientôt. En attendant, félicitations pour la réception pour votre film un peu partout dans le monde. Merci.